Au Café Service, une émission au service des populations. Des questions, des essais et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Café Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Plusieurs agents de l'État n'ont pas de numéro matricule après plusieurs années de prestations dans l'administration publique. Conséquence, ils ne perçoivent pas leur salaire et pour certains ont développé des pratiques peu recommandables pour survivre. Quelle est la procédure à suivre pour avoir un numéro matricule dans l'administration publique? Le sujet vous intéresse, composez-vous le 081 890 63 94. Florent Moulumba, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama.
Voilà, vous êtes un ancien directeur du cabinet du ministre de la fonction publique. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la procédure à suivre pour être mécanisé, comme les gens le disent souvent, dans l'administration publique?
Merci beaucoup pour la préoccupation. Merci aussi de vous être intéressé à nous. Même si nous ne sommes plus dans ces fonctions, nous ne sommes pas par là, nous en connaissons quelque chose.
Oui.
Et aujourd'hui, en tant que député national, c'est une raison de plus pour que nous puissions nous occuper davantage des questions qui intéressent au premier chef la population congolaise. En ce qui concerne la question que vous posez, d'abord, il faut noter que il y a une grande, très grande perturbation dans le fonctionnement de l'administration aujourd'hui. Et c'est cela qui explique les irrégularités que l'on constate. Notamment le fait que des agents travaillent pendant longtemps, ils n'ont pas de numéro matricule, c'est-à-dire ils ne sont pas admis sous statut. Et automatiquement, quand on n'est pas admis sous statut, on n'est pas agent de l'État et on ne peut pas toucher le salaire. Mais la contradiction, c'est lorsque nous disons on n'est pas admis sous statut, on n'a pas de numéro matricule, donc on n'est pas agent de l'État, mais nous avons en face des agents qui travaillent justement dans les services de l'État, mais qui ne sont pas payés. Il y a là une grave irrégularité. En 2008, le Premier ministre à l'époque avait autorisé au ministère de la fonction publique de pouvoir régulariser la situation de ce type de personnes. Mais le problème, c'est quoi? Si on peut chercher la genèse, vous avez le dysfonctionnement de notre situation qui a fait que beaucoup de services de l'État ont vu leur personnel très âgé, qui n'était plus en mesure de rendre le service attendu. Et devant la difficulté de mettre tous les agents de l'État à la retraite, il est arrivé que ces agents qui ne produisaient plus devaient être remplacés par des personnes actives capables de rendre service.
Par de nouvelles unités.
Comme ça, des services de l'administration qui ont procédé à l'engagement irrégulier, totalement irrégulier, des agents qu'ils ont mis en service à l'insu du service central, donc du gouvernement central au niveau de Kinshasa. Et vous retrouverez cette situation dans plusieurs provinces, notamment dans les provinces où il y a eu la guerre.
Oui, alors, M. Florent, vous dites qu'il y a eu plusieurs unités, nouvelles unités, qui ont été engagées sans suivre la procédure requise. Alors, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quelle est la procédure à suivre pour être engagé dans l'administration publique?
En situation normale, c'est le service utilisateur qui exprime le besoin. Au regard du cadre organique, on sait identifier les postes et en cas de décès, en cas de mise à la retraite ou en cas de démission, en cas de désertion, on peut procéder au remplacement d'un agent. En ce moment-là, c'est le service utilisateur qui exprime le besoin à la hiérarchie. Et ce besoin est transmis par le ministère utilisateur au ministère de la fonction publique. Et le ministère de la fonction publique peut regarder dans les effectifs existants une disponibilité et on peut affecter un agent qu'on retire d'un autre service où il est moins utile pour l'affecter à un poste qui correspond à son profil. Ça, c'est un aménagement qui se fait à l'interne. Mais lorsque on n'a pas une compétence pour occuper le poste, c'est par un test par concours donc. On ouvre le poste, on recrute sur base d'un concours. Et les candidats qui se seraient placés en position utile sont sélectionnés et donc sont par la suite admis sous statut. Ils reçoivent automatiquement un numéro matricule et ils sont par la suite affectés au service où il y a des vacances.
Mais M. Florent, on n'a jamais entendu qu'il y a eu concours ou offre d'emploi dans l'administration publique où on invitait les référents à venir déposer leur dossier.
C'est long quand même, mais c'est des pratiques auxquelles il faut revenir. Je pense que vous qui êtes de la presse, qui savez cuiner, vous savez que l'année 2011, il y a eu un test d'embauche au ministère des Finances, c'est-à-dire il y a des pratiques normales auxquelles pendant très longtemps l'administration n'a plus recouru, mais dans le cadre de la réforme de l'administration publique qui est actuellement en cours, il est prévu un service qu'on appelait Office national de recrutement des agents de l'État, ça s'appelle au sens que je n'ai plus la dénomination exacte. Mais ce service qui est censé entrer en vigueur au cours de cette année devrait désormais procéder par les tests avant que les agents de l'État ne soient admis. Mais il y a eu plus de 45 agents au ministère des Finances, des cadres universitaires qui ont été recrutés sur base d'un test. Et actuellement, ils sont en formation initiale qui va leur permettre d'être affectés maintenant dans les services du ministère des Finances.
Bien.
Cela va se répéter pour d'autres ministères, notamment le ministère de l'Environnement, où également il y a eu une mise à la retraite et ils sont maintenant dans le processus de recrutement et ça doit passer inévitablement par le test d'embauche.
Bien. Monsieur Florent, nous avons un auditeur en ligne depuis Bounia, dans la province orientale. Il s'appelle Sylvain. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Sylvain.
Oui, merci pour la parole que vous m'accordez. Je voudrais d'abord saluer votre invité et le remercier pour le sens de responsabilité de son explication. En fait, moi, je suis en train de penser que le problème de mécanisation ou même de l'embauche au sein de l'administration publique devait d'abord dépendre d'une analyse approfondie de la probabilité de l'écart entre le personnel prêt à la retraite et les besoins qui se font sentir dans cette administration publique. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est le contraire. Alors, moi, je voudrais poser une petite question. Comment on peut mécaniser les agents de l'État dans un système où le recrutement se fait sur base politicienne, où on peut recruter les membres dans un parti politique ou un autre parti de la majorité, et ne pas tenir compte des besoins, ou ça, des besoins réels de la même administration. Et donc, j'ai comme impression qu'il n'y a même pas une administration publique, et il y a une ultime qui n'est pas parfaite, et cette mécanisation même n'existe pas, selon moi. Je ne sais pas ce que votre invité peut dire par rapport à cette question.
Alors, Sylvain, vous voulez dire qu'à Bounia, généralement, le recrutement se fait sur base d'appartenance à telle ou telle autre famille politique?
Ah oui, généralement, ce n'est même pas à Bounia. Je crois que c'était fait. Écoutez, monsieur, j'ai un exemple concret.
Oui, lequel?
Je suis parti avec un ami. Il devait travailler dans la DRPO. Mais malheureusement, l'ami était un militant d'un parti de l'opposition. Et donc, on lui dit la première des choses, que je pense être le premier élément du processus de mécanisation selon ce gouvernement, on dit qu'il faut d'abord appartenir à un des partis de la majorité. Et ça, ma question. Alors, dans ce contexte-là, quel peut être le sens à donner à la mécanisation du personnel de l'administration publique?
Merci, Sylvain de Bounia. Gustave, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jérémy.
On vous écoute.
D'accord, j'avais quelques préoccupations. La première, bon, je voudrais demander à mon invité combien de fois les fonctionnaires de l'État doivent être recensés par année.
Combien de fois les fonctionnaires doivent être recensés?
Oui, par année.
Oui.
La deuxième, quelle est la procédure qui utilise les autorités qui ont à main la charge de fonctionnaires dans les différentes entités politiques?
Oui, pouvez-vous reprendre, parler un peu plus fort, Gustave, pouvez-vous reprendre la deuxième question?
Oui, j'ai dit ceci. Oui. Quelle est la compétence qu'utilisent les autorités qui ont à main la charge des fonctions publiques dans les différentes entités, comme la ville, la province, pour recruter et puis respecter les agents de voie qui ne passent là, je viens de
bien, merci. Florent Moulumba.
Oui.
Voilà, vous avez, il y a des auditeurs qui nous ont appelé. Sylvain Debounia, il dit, il a constaté que le recrutement des agents de l'État s'est fait sur base d'appartenance à telle ou telle autre famille politique. Alors, il voudrait en savoir plus par rapport à ça.
Oui, puis il y a Gustave, je n'ai pas bien saisi.
Il y a Gustave de Kananga qui dit à combien de fois doit se faire le recensement des agents de l'administration publique par an et quelle est la procédure utilisée pour recruter des nouvelles unités et faire partir en retraite certaines personnes.
Merci bien, je remercie tous les deux intervenants, donc M. Sylvain de Bounia et Gustave de Kananga. Je crois que Sylvain a raison lorsqu'il parle de cécité de la situation entre la mise à la retraite et le recrutement. Il a parfaitement raison. Et il n'est pas admissible justement que l'on puisse recruter sans tenir compte des disponibilités offertes par le cadre organique de l'administration concernée. Je vais parler de la... Mais il y a également, j'ai parlé de la démission, j'ai parlé de la désertion, mais il y a aussi les révocations qui interviennent. Donc il y a tous ces éléments, retraite, démission, etc., qui peuvent aider à créer des vacances. Et c'est en fonction de ces vacances qu'en situation normale, régulière, on peut procéder à un recrutement. Mais le recrutement, j'ai dit, il faut d'abord regarder à l'interne, dans le ministère concerné. Si, par exemple, à un poste de chef de division, il y a un agent qui est admissible à la retraite, il faut regarder immédiatement l'agent qui venait après lui, donc le chef de bureau, dans le même service, qui a une certaine ancienneté, qui a une certaine expérience, et qui a été coté régulièrement bon, au moins bon, et s'il répond à ce profil, on peut le promouvoir pour occuper le poste de chef de division. En ce moment-là, un vide va se créer à son poste de chef de bureau, qui peut à son tour nécessiter de regarder plus bas, et on y va comme ça. C'est lorsqu'on ne sait pas trouver une compétence avec un profil concordant au poste créé vacant, en ce moment-là, on peut procéder à un recrutement. Et généralement, le recrutement se fait pour le niveau initial. Alors, à d'autres postes de commandement, ce sont des recrutements particuliers. Lorsque le poste est technique, très technique, il faut une compétence avérée. En ce moment, on peut recruter directement quelqu'un à ce niveau-là. Mmh. Et là, ce sont des procédures aussi particulières.
Alors, par rapport à la question
des... de l'identisme. Bon, vous savez, personnellement, je n'ai pas cette expérience. Mmh. Et d'abord, je voudrais dire que le fait qu'un agent appartienne à qu'il ait une tendance politique ne devrait pas avoir un lien direct avec sa prestation comme agent de l'État. Et nous savons que tous les Congolais ont des tendances politiques. Et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas les recruter du fait qu'il appartient à une tendance, qu'il soit de l'opposition, de la majorité, d'un parti de la majorité ou d'un parti de l'opposition. Mais on le voit en tant qu'agent de l'État, on voit sa qualification, on voit sa compétence, et on peut le recruter par rapport au rôle qui est attendu de lui, par rapport au service qu'il doit rendre. Donc cela devrait, impacter peu sur la procédure de recrutement. Mais c'est vrai, il peut y avoir eu des abus. Vous savez, lorsque dans une province, un gouverneur de province, de par son administration, transmet au ministre de la fonction publique les éléments de régularisation pour l'état d'un de ses agents, le ministre de la fonction publique n'a pas à aller vérifier que l'agent appartient à tel ou tel autre parti politique. C'est un document administratif qui lui est transmis, c'est un dossier administratif, et lui, il statue sur base de cette particularité.
et il agit conséquemment.
Alors, M. Florent.
Il appartient au parti politique, ça n'apparaît pas dans son dossier. C'est difficile qu'au niveau de Kinshasa, le ministre de la fonction publique puisse s'en rendre compte.
Mais dommage, et pourtant c'est une triste réalité. Alors, Gustave de Kananga, on vous a posé la question de savoir combien de fois doit se faire le recensement des agents de l'État par an.
Vous êtes à Kinshasa, je crois que vous avez connu le transport en commun. Lorsqu'un bus est sur la route, il doit s'arrêter à plusieurs arrêts et les agents contrôleurs peuvent entrer quand ils veulent. Ils peuvent voler l'effectivité des billets dans les mains des passagers à n'importe quel moment. Donc ça, c'est de la nécessité de l'employeur. Autant de fois que l'employeur peut se sentir dans le besoin de vérifier l'état de sa maison, il en a le droit, il peut le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois. Cela ne devrait pas gêner.
Bien.
Mais
Monsieur Florent,
l'essentiel, c'est de savoir à quoi servent tous ces recensements. Est-ce qu'ils aident à améliorer la situation? Je vois que c'est ça qui devait être la préoccupation de notre correspondant.
Oui, voilà. Monsieur Florent, Bob Boka nous a écrit de Kinshasa. Il dit ceci: il y a une magouille terrible dans la mécanisation des nouvelles unités. Tenez à l'UPN, par exemple, il y a des nouvelles unités engagées depuis 3 ans qui ne reçoivent pas leur salaire et la prime institutionnelle, alors que vous avez des nouvelles unités engagées après une année seulement qui touchent la base et la prime. Interpeller les autorités académiques de l'UPN et le nouveau ministre pour que cette situation soit décantée. Même au niveau de la fonction publique, il y a un système de corruption et de discrimination au niveau du service d'octroi de la carte bleue. Le personnel de l'UPN est discriminé. Interpellez, s'il vous plaît, les autorités de l'UPN et le ministre des Dessus pour qu'un contrôle se fasse à l'UPN avec les services du ministère. La situation est grave. Voilà, c'est ce que un auditeur nous révèle une situation. Il nous dit qu'il y a la corruption à l'UPN. Il y a certaines unités, nouvelles unités qui sont payées alors que d'autres engagées bien avant ne sont pas payées. Comment expliquez-vous cela?
Je pourrais expliquer ça partiellement parce que la paye ne relève pas du ministère de la fonction publique directement. Vous savez qu'il y a une procédure qui fait que le ministère de la fonction publique engage la paye, le ministère du budget liquide la paye, et le ministère des Finances ordonnance. Donc, il y a là une responsabilité partagée. Et je ne sais pas à quel niveau, avec précision, se trouve le cas des personnes dont il parle. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. Pour tous les agents qui ont été régularisés, dans la mesure où ils ont leur numéro matricule, ils ont une affectation, ils sont effectivement en poste, et qu'ils ont été recensés et identifiés comme tels, le ministère de la fonction publique opère ce qui est appelé là-bas la mise à jour du fichier du recensement qui conduit à la mise à jour du fichier de la paye. Et ce fichier actualisé est transmis au ministère du budget pour le compte de la direction de la paye. Et à l'heure qu'il est, avant que moi je quitte le ministère, je sais que la fonction publique environ 30 000 agents régularisés qui devaient être mécanisés. Mais là, il se pose deux problèmes. Et ça, c'est des choses que l'on peut comprendre sans sentiment. Je parlais de la responsabilité partagée. Pour chaque année, le ministère du budget, partant des recettes possibles, fixe l'enveloppe de rémunération, donc selon ses capacités. Cette détermination de l'enveloppe ne répond pas nécessairement aux besoins exprimés par le ministère de la fonction publique. Parce que à un moment donné, et sur l'instruction du Premier ministre à l'époque, la fonction publique s'était dit « Bon, vous avez des agents dont il faut régulariser la situation. »
Voilà, Monsieur Florent, Florent, nous allons poursuivre tout à l'heure le temps de recueillir, d'accueillir certains auditeurs en ligne. Christian nous appelle de Pandroma, de la province orientale, et David de Guémena. Vous voulez aussi participer, composer le 081-890-63-94. La refuge.
Samedi sur Radio Capi, Karim Galimbaya vous offre les reprises musicales. Les mêmes chansons, des voix différentes. Samedi dès 10h, heure de Kinshasa. Des chansons anciennes ou récentes, reprises dans des versions différentes. C'est sur la fréquence de la paix.
Bien, nous poursuivons cet entretien. Quelle est la procédure de mécanisation d'un agent de l'État? Christian, vous êtes à Kwandoma, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit à Chama, j'ai à l'éviter et à tous les auditeurs qui m'écoutent pour ce moment à Kwandoma.
On vous écoute, Christian.
Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de certains personnels de l'État. Ils sont mécanisés, ils touchent même leur salaire normalement. Mmh. Mais il arrive des fois, ils sont démécanisés. Qu'est-ce qui arrive? C'est niveau problème technique, ça s'est fait où?
Vous avez dit que ces agents avaient déjà des numéros matricule et ils étaient payés et quelques temps après, ils ont perdu leur numéro matricule.
Oui, oui, c'est ça. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qui se passe pour faire son numéro matricule.
Merci, Christian. David, vous êtes à Guimena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. J'ai deux petites préoccupations.
Oui.
Je suis personnel médical. Depuis 2008, je n'avais été admis sous statut par son excellence, monsieur le ministre, monsieur Laurent Messini.
Mm-hmm.
Depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas mécanisés, nous sommes nos représentants. On continue à travailler 5 fois aujourd'hui, nous ne sommes pas payés.
Vous êtes admis sous statut
par rapport au ministère de l'Environnement. Il a dit tout à l'heure qu'ils sont maintenant au niveau de recrutement, alors que la première étape qui concernait la mise à retrait de personnel de l'environnement n'est pas terminée parce que, à mon avis, à ma connaissance, on avait retraité les agents extérieurs, mais les autres parties des attachés n'étaient pas jusque-là retraités. On avait dit qu'on avait attendu votre gouvernement parce que ces gens ne sont pas encore mis à retrait. Et il n'y a pas de recrutement. Je ne comprends pas ce qui se passe à ce niveau-là.
Vous dites, David, vous avez dit que vous êtes admis sous statut depuis 2008. Hein.
Depuis 2008, d'abord.
Oui, au ministère de l'Environnement.
Non, moi je suis dans le ministère de la Santé publique. Je suis un personnel médical ingénieur.
Au ministère de la Santé publique. Merci, monsieur Florent.
Ok, donc je reviens un peu sur ce que je disais avant. Je parlais des 30 000 agents pour lesquels la fonction publique avait demandé la mécanisation, donc le paiement, la direction de la paye. Et je vous informais aussi que pour la même année, donc l'année passée, il y a eu plus de 1000 magistrats qui ont été mécanisés, qui ont vu leur salaire débloqué. Il y a eu plus de 12 000 enseignants, ceux qui ont eu ma vie. Et d'autres agents qui avaient été dans des ingénieurs de l'agriculture, plus de 500. Et c'est donc qu'il y a un effort qui se fait. Mais il y a aussi des cas individuels.
C'est les cas
que nous avons vu le ministère du budget régulariser. Mais le problème, c'est que, je disais, tout dépend de combien le ministère du budget a pu mobiliser comme ressources à affecter à la paye. Et il les libère donc au fur et à mesure qu'ils ont les possibilités de le faire. Et là, ce n'est pas du ressort du ministère de la fonction publique.
Mais vous avez suivi, M. Florent, David, le cas de David de Guimena, qui est admis sous statut depuis 2008, mais il n'a jamais été payé.
Oui, cela est possible. Il faut d'abord savoir est-ce que son administration a régulièrement transmis son dossier au ministère de la fonction publique. Si ce dossier n'a jamais été transmis, bien là, ça posait le problème. Mais d'autre part, je vous répète qu'il y a 30 000 cas que la fonction publique avait soumis à la paye, à la gestion de la paye du ministère du budget. Peut-être qu'il est parmi les 30 000. Mais je vous ai dit que dans ces 30 000, il y a eu déjà des magistrats libérés, il y a eu des enseignants et des ingénieurs agronomes. Donc la suivi continue, peut-être qu'il est dans ce lot. Maintenant, je n'ai pas la possibilité de voir son dossier, de savoir ce qui a été fait à l'époque. Je ne saurais pas donner une réponse précise pour le cas individuel.
Oui, Christian Dépendoman voudrait savoir qu'est-ce qui explique que certains agents perdent leur numéro matricule après quelques temps.
Oui, nous avons reconnu ensemble qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'administration publique et qui ont fait l'objet aujourd'hui de la réforme. Donc il y a un travail qui se fait.
Il y a des contrôles pour notre ami de Canada qui demandait combien de fois le changement doit avoir lieu. Il y a des cas où le service technique arrive à découvrir, par exemple, qu'un agent touchait indûment deux fois. Il touche dans un service et il touche dans un autre. Si la direction de la paie constate cela, automatiquement, on bloque un des deux salaires. Mmh. Alors, il peut arriver malheureusement que là où on a bloqué, c'est là justement qu'il est. Et il peut se retrouver comme ça bloqué. Ça, c'est possible. Il y a également des agents qui avaient introduit des dossiers frauduleux. Vous trouvez qu'il y a eu, je ne sais pas moi, en 88, l'admission sous statut par arrêté, parce qu'à l'époque, à la machine mécanique. Et les agents trichaient, ils enlèvent un nom, ils mettent un autre. Et puis, bon, ils introduisent dans leur administration une requête. Cette requête peut avoir été admise, validée, mais plusieurs années après, on découvre que c'était une falsification. Et ce genre de cas, automatiquement aussi, le salaire est bloqué. Bon, il y a plusieurs explications qui peuvent justifier. Mais ça peut aussi être une erreur technique, une erreur matérielle. Mm-hmm. Au niveau de la puissance de la paie, ça arrive. Mais c'est que l'agent introduise son recours, que ça soit couvert par son direct, et que ça suive la procédure normale, jusqu'à ce que ça atteigne le ministre de la fonction publique, qui pourrait, à travers son administration du secrétaire général aux actifs, pour instruire le budget de la direction de la paie pour la normalisation.
Alors, on peut dire aujourd'hui, M. Torrent, que la plupart des agents de l'État qui n'ont pas de numéro matricule ont été engagés d'une manière irrégulière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne perçoivent plus, ils ne perçoivent pas leur, la prime ou les salaires. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour régulariser leur situation?
Oui, il y en a qui sont dans ces administrations, surtout dans les provinces, et qui ne sont connus que par la province. Ils ne sont pas déclarés au niveau national. Or, vous savez que la paie jusqu'à présent, en attendant la décentralisation, son effectivité en fait, en ce qui concerne les aspects administratifs, donc c'est au niveau du pouvoir central que les agents sont mécanisés et ils sont payés. Donc si un agent n'est pas connu au niveau national, c'est clair qu'il fera 15 ans, 20 ans, 30 ans sans que sa situation soit prise en charge. Donc il faut que absolument son administration transmette son dossier et justifie pour que d'abord il obtienne son admission sous statut, après analyse si cela se justifie, et après seulement il peut figurer après son identification dans le fichier du recensement. Et après, il va figurer sur le fichier de la paie. Donc, c'est toute une procédure.
Bien, merci Florent Moulumba, ancien directeur du cabinet du ministre de la fonction publique, actuellement député national. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci beaucoup et bonne journée à vous et à tous les auditeurs. Au Capi.